La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le cri du cœur du super Moscato Show.
Restez bien avec nous. Vous n'avez jamais entendu le témoignage qui va suivre parce que Benjamin Védrine, notre cri du cœur, qui est l'alpiniste de l'année 2023, part pour un défi assez incroyable qu'il va nous expliquer. Bonjour. C'est Benjamin.
Incroyable. Bonjour.
Salut,
bonjour.
Salut. Salut le monde.
Benjamin, bonjour. Tu prépares et tu es en fin de préparation de ton nouveau défi, l'ascension record du K2. On va détailler ton défi d'abord. Dis-nous, qu'est-ce que le K2 exactement?
Le K2, c'est la deuxième plus haute montagne du monde après l'Everest. C'est un sommet qui se situe au Pakistan. C'est un pays qu'on connaît pas trop dans notre culture. Mais c'est un magnifique sommet. C'est beau, c'est pyramidal, c'est raide. Et surtout, ça manque cruellement d'oxygène. Et donc, pour nous, les alpinistes, c'est un grand défi de vouloir tenter l'ascension à la journée depuis le pied de la montagne.
8611 mètres, hein, c'est l'altitude du K2.
Ouais,
donc, ton défi, c'est de le faire à la journée et sans oxygène. C'est-à-dire? Quelqu'un qui ne connaît pas l'alpinisme, ça veut dire quoi exactement?
C'est-à-dire, classiquement, en ce moment, on voit pas mal d'ascensions des 8000. Vous voyez, hein, dans les médias, etc. Et la plupart des personnes qui grimpent sur ces 8000 sont avec des bouteilles d'oxygène.
Ouais,
donc en gros, avec une bouteille d'oxygène, un apport supplémentaire d'oxygène, parce qu'il en manque, on peut enlever quasiment 2000 mètres. Donc ça veut dire que si on est à 8600, c'est comme si on était à 6600.
En termes de performance, si on veut comparer, c'est ça.
Et si on compare, c'est un peu comme l'apnée. C'est un peu comme si on comparait un Guillaume Néry qui plonge à plus de 100 mètres par rapport à quelqu'un qui plonge avec une bouteille à la même profondeur. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes enjeux. C'est pas du tout la même préparation.
Non, c'est pas du tout. Ça veut
n'a
dire
rien à voir.
100 mètres avec des bouteilles, il y a quand même un paquet de monde qui peut le faire.
Exactement.
Il y a 100 mètres sans bouteille, il n'y en a pratiquement pas.
Et ouais, c'est pas la même expérience personnelle déjà. Et puis c'est pas
la
même.
À la journée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un chrono?
En fait, c'est pareil, de manière classique, les gens, ils mettent 2-3 jours pour gravir le K2, voire souvent 4. En gros, ils passent 2-3 nuits là-haut avant d'arriver au sommet. Et moi, l'idée, c'est de partir du pied de la montagne à 5300 mètres et de gravir les 3300 mètres de dénivelé qui séparent le pied de la montagne du sommet.
Dans la journée.
Dans la journée. Et en fait,
donc c'est une course, en fait.
Dans les Alpes, ça paraît pas énorme, ce dénivelé. C'est un peu comme si on partait de Chamonix et qu'on allait au sommet du Mont Blanc. Mais si on cumule ça avec un manque d'oxygène,
c'est l'horreur. Personne l'a fait déjà. Personne l'a jamais fait.
Ça s'est déjà fait par Benoît Chamou, un alpiniste français dans les années 80.
Il y a un Catalan qui fait ce genre de choses. Comment il s'appelle?
Kylian Jornet. Lui, il avait fait l'Everest, le plus haut sommet. Ouais. Il avait fait l'Everest côté chinois.
Ouais.
Et par contre, il est jamais allé au K2. C'est un sommet qui est un peu moins pratiqué parce qu'il est un peu plus difficile à grimper, quoi. En gros.
Benjamin, quand tu souvent dit style alpin, c'est-à-dire quoi style alpin?
Style alpin, en fait, c'est sans corde fixe, sans oxygène, sans aide de porteur d'altitude, etc. Donc c'est on largue les amarres. On largue les amarres.
Bruit de décoffrage, quoi, pas de.
Couvert, tu manges jamais les doigts.
Alors que le style himalayen classique, c'est corde fixe, oxygène, porteur d'altitude, sherpa, guide, etc. Et moi, je suis un peu hybride. Je profite de ces cordes fixes, mais par contre, je suis sans oxygène et je me démerde tout seul.
D'accord. Alors maintenant que vous avez bien le défi en tête, donc je vous rappelle qu'on est avec Benjamin Védrine, alpiniste de l'année 2023, qui va partir donc le 9 juin pour le Pakistan, escalader le K2. Donc sans oxygène et à la journée. Tu as échoué sur ce défi en 2022 et pour dire que tu te lances dans un truc qui est absolument pas commun, échouer, ça veut dire que tu as risqué ta vie tout simplement. Hein.
Clairement, ouais. En fait, en 2022, j'ai eu une hypoxie sévère et à partir de 8300 mètres, je suis tombé dans une sorte pas de délire, mais en tout cas une altération de la conscience, une fatigue excessive, une lucidité réduite et je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé. J'ai pas de souvenir entre 8300 et 8400. Et pourtant, mon corps a continué à monter de manière un peu robotique, aimanté par le sommet, tu vois. Et du coup, j'ai dû faire demi-tour.
Ouais, ça m'est arrivé, ça n'a rien à voir.
On a des points communs.
Tu te souviens du retour ou pas du coup?
Alors à partir de 8003, ça s'est résorbé et j'ai retrouvé pleinement ma conscience.
Mais est-ce que tu sais comment t'as justement pris conscience et que comment tu t'es arrêté avant que ce soit trop tard? Tu le sais ça?
Ben en fait, j'étais parfois je m'arrêtais, je me laissais un petit peu aller en position fœtale. C'est un peu glauque, hein. J'ai des bribes, j'ai des souvenirs, quelques souvenirs très vagues. Et c'est des gens qui m'ont aidé à faire de demi-tour. Heureusement, j'aurais pu potentiellement y rester.
Pas se reproduire. Est-ce que t'as fait quelque chose que tu n'avais pas fait à l'époque?
Exactement comme moi. Pareil. C'est des gens qui sont à les positions fœtales.
Non, en fait,
justement.
Sincèrement, ça peut se reproduire parce que la haute altitude présente des aléas qu'on a du mal à anticiper. Pour autant, ma préparation, justement, elle est basée sur ce que j'ai vécu, tu vois, et sur la mauvaise expérience que j'ai pu subir. Et donc, mon souhait, c'est de absolument pas revivre ça, quoi.
Et le Sherpa, parce que tu montes un Sherpa, c'est ça. T'es debout sur un Sherpa, tu t'amènes en haut comme ça.
Ça, c'est pour pas trop le dire.
Plus de Denis Charvel.
Justement, Benjamin, tu as dit que tu as travaillé l'aspect mental. C'est un truc tout nouveau pour toi. Tu as dit j'ai envie de prendre les bonnes décisions au bon moment. Est-ce que c'est lié justement au fait que tu as eu cet échec?
Ben carrément. En fait, moi, si j'étais avant le K2, il y a deux ans, j'ai réussi le Broad Peak, qui est le petit frère du K2, qui est le voisin, quoi. Et j'ai fait l'ascension du Broad Peak de manière record en 7h28. Je suis descendu en parapente, tout s'est bien passé. Si j'étais resté sur cette expérience positive, eh ben autant je serais arrivé cette année sur le K2 et je me serais cassé les dents. Ouais. Là, j'ai vécu un drame, quelque chose qui aurait pu être tragique. J'ai du coup beaucoup plus d'éléments qui m'amènent à être mature, quoi, à aborder l'expérience avec beaucoup plus de solidité. Et c'est pour ça que la préparation, elle est basée sur le coaching mental, elle est basée sur la perception de l'effort qui va être très importante en fait pendant l'ascension, afin de pas retomber dans cette hypoxie sévère.
On est avec Benjamin Védrine, donc qui s'apprête à gravir le K2, donc sans oxygène et à la journée. Adrien,
qu'est-ce qui te guide en fait? Quelle est l'idée de base? Pourquoi tu fais tout ça? De l'expérience, on se dit, c'est quand même un
défi.
C'est risqué, évidemment. Mais au plus profond de toi, qu'est-ce qui te guide? Pourquoi tu retournes?
Te rapprocher de Dieu, t'es croyant?
Non, sincèrement, je suis athée. Pour autant, il y a peut-être quelque chose, effectivement, de. Non, moi, personnellement, je pense pas quelque chose de religieux, mais la montagne, c'est un mode de vie, ça va au-delà du sport. Moi, je vis de la montagne tous les jours. Je suis connecté à cet environnement. Ça va au-delà de juste s'énergiser en termes d'effort. C'est aussi de la contemplation, c'est aussi vivre dans un environnement qui est extrême. On est aussi à l'exploration de nous-mêmes, tu vois. On a l'exploration d'un sport, essayer de casser les codes, de créer, de mettre notre pierre à l'édifice. Mais c'est aussi une manière de s'explorer soi-même. Et moi, personnellement, j'en ai besoin. C'est le meilleur médicament que j'ai trouvé pour l'instant.
Mais quand t'es dans l'effort, t'as pas le temps de contempler, de regarder.
Attends. Moi, je pense mettre entre 14 et 18 heures. Donc,
oui, entre
14 et 18 heures, j'ai le temps.
Oui,
de,
mais est-ce
de...
que t'as la lucidité Est-ce que tu gardes une certaine lucidité, justement, comme dit Stéphane, pour regarder, pour apprécier, parce que c'est.
Mais oui, bien sûr qu'on apprécie. Et puis, par exemple, quand j'ai décollé du Broad Peak il y a deux ans, c'est le plus beau vol de ma vie. Là, il y a un shoot d'adrénaline, mais il y a aussi un shoot de visuel, quoi. C'est magnifique. On est entouré de sommets.
Ce qui est prévu, c'est de redescendre en parapente. Oui,
Ça serait la cerise sur le gâteau. En fait, c'est de combiner plusieurs challenges, on va dire.
Quand tu as eu ces malaises, c'était à 1008, 1002, 1003, 300 mètres, il y avait la folie douce. Hein. C'était la sangria qui t'attendait. À 8200 mètres, la sangria, ça.
C'est vrai que ça s'est peut-être pas du tout passé.
Ça peut nous décrire le terrain, parce que c'est des endroits dans lesquels le commun des mortels ne va jamais. Non, ça ressemble à quoi concrètement?
Concrètement, c'est beaucoup de masse glaciaire, c'est blanc, il y a de la glace, il y a du rocher, c'est raide. On met souvent les mains pour grimper. Et puis, c'est souvent très homogène, donc c'est un terrain où il ne faut jamais avoir d'inattention. Si tu as le moindre déséquilibre, potentiellement, tu peux, par la gravité, chuter.
Tes chaussées comment?
Là, du coup, on a fait des chaussures sur mesure avec mon équipementier. Et du coup, c'est des chaussures ultra light avec des crampons intégrés aux chaussures. Okay. Ça permet d'alléger. En fait, on est au gramme près dans ce genre de projet, quoi.
Mais t'as du matos vidéo, tu filmes ton ascension?
Là, c'est la première fois que je serai accompagné de deux caméramans. Il y a deux vidéastes qui viennent avec moi pour filmer toute l'expédition en général.
Costaud, apparemment.
Il y a Seb Montaz qui sera avec moi et qui est guide de montagne, comme moi.
C'est pas beau, tout. Et
Non, Non, il faut pas avoir.
Avec l'arto qui arrive.
Il faut pas avoir de pied gauche. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est un copain guide qui m'accompagne et il compte grimper jusqu'à 8003 et moi j'aurai une GoPro également, donc ça me permettra de ramener des images.
Dans ton ascension, est-ce que le chemin est prévu? Quelle est la part de technique et quelle est la part d'intuition pour arriver jusqu'en haut?
Mais la part d'intuition, je dirais qu'elle est colossale, considérable. Ouais, ouais. En fait, dans le haut niveau en général,
tu montes et tu sais pas par où tu vas passer.
Ah, par contre, pour le cheminement en lui-même, sincèrement, ça c'est facile parce que si tu veux, t'as une ligne de vie quasiment continue, qui est une corde, et du coup, l'aspect technique sur ce challenge, il est pas énorme. C'est avant tout physique et mental.
Et tu es accompagné par des mecs jusqu'à quel niveau?
Non, je vais faire l'ascension tout seul
à partir de 5000 mètres, tu sais
pas. Ouais, ouais, je suis tout seul, ouais.
T'as pas des mecs qui t'amènent jusqu'à 7000 mètres?
Non.
7000 mètres, un truc comme
non,
ça.
Non, je suis tout seul. Alors par contre, après, sur la montagne, c'est des montagnes où il y a très peu de moments où on peut le grimper. Parce qu'il faut une météo adéquate. Il faut pas de vent, pas de risque d'avalanche.
T'es équipé d'une radio?
Ouais, j'aurais un moyen de communiquer avec le camp de base.
Ouais, c'était pas bien quand même.
Ben ouais, c'est quand même.
Tu rencontres l'abominable des neiges.
Alors, question.
Alors, pour autant, attends, il y a un truc intéressant.
Passé, mais cette fois-ci, c'est pas mal à la tête.
Non, mais il y a un truc intéressant, c'est que là-haut, en fait, même si t'es une radio, c'est un environnement rare sur Terre où t'as pas de secours. T'as zéro secours.
Oui, tu peux pas, ouais.
Il t'arrive une merde,
et pour préparer le K2, tu passes ta vie, t'as un boulot dans ta propre vie ou tu fais que ça, t'as des sponsors, t'as des partenaires?
Ouais, moi, à la base, si tu veux, je suis guide haute montagne, donc j'ai passé le guide à 21 ans. J'ai travaillé plus de 7 ans en tant que guide à amener des clients sur les sommets, à gravir le Mont Blanc, le Dôme des Écrins, enfin tout ci, tout ça. Et puis maintenant, en fait, je me consacre quasiment exclusivement sur mes projets perso et donc j'ai des sponsors qui me suivent.
T'as fait de l'escalade?
Je fais de l'escalade.
Ah ouais. Sur des glaciers,
sur des rochers.
Il y a un truc qui m'avait impressionné, j'avais vu les gars l'hiver au cirque de Gavarnie.
Ah ouais,
et la cascade de glace.
Ça c'est beau.
Il y a des mecs qui décrochent quand il commence à faire soleil. Il y a eu des mecs qui sont tombés.
Mais en fait, la montagne en général.
Faut monter très tôt, à partir de la nuit.
Ça dépend des conditions, mais c'est vrai qu'il faut être extrêmement attentif aux conditions de la montagne.
Là, dès que ça commence à chauffer, ça glisse.
Sur le K2, est-ce que tu es susceptible de croiser des animaux? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que tu y penses? Est-ce que,
non,
est-ce
y a,
que ça existe?
Non, franchement, ben, c'est chaud, là, il n'y a que quelques oiseaux qui traînent ici par là. Les plus dangereux, c'est les humains, les animaux que je vais croiser, quoi. Parce qu'ils risquent de me faire tomber des chutes de pierres dessus, tu vois.
T'as des espèces de léopards, tu sais, de neige, là.
Ah, les léopards des neiges. Alors, ouais, au Pakistan, il y en a
pas mal au Pakistan, ouais. Et ça peut, faut pas en croiser, hein, parce que ceux-là, ils sont sévères, quand même.
Bah, ils nous voient, mais on les voit pas.
Chez nos aussi, il y en a des léopards de neige.
Et Benjamin, si t'arrives ce défi, c'est quoi t'as déjà anticipé un truc après, encore plus fou?
La next step, un peu?
Ouais.
Ben, oui, on en a toujours, les alpinistes passionnés, on a toujours des idées dans les cartons, hein. Mais, je vais les garder pour moi, pour l'instant.
C'est secret,
dernière question, j'aimerais savoir quel est ton rapport avec la mort?
Eh ben, mon rapport avec la mort, il est précieux. Moi, je suis attiré par la vie avant tout, évidemment. Hein. Mais c'est souvent en me rapprochant de la mort que j'ai cette sensation de vivre davantage, quoi. Et j'ai besoin, pour l'instant, de ça. Ça a toujours été le cas. Mais je suis pas du tout un inconscient et ni un insouciant. Je fais les choses.
T'as pensé à ouvrir une concession de pompes funèbres?
Tout ça est très préparé, très professionnel. T'as monté.
Ouais, c'est minutieux quand même.
De sommet. Est-ce que tu peux nous décrire quel sentiment tu éprouves quand tu arrives tout en haut et que ça y est, tu y es arrivé?
Bah, c'est galvanisant. Alors ça dépend les sommets. Des fois, c'est vrai que franchement, pour moi, c'était avant tout gérer la redescente. Parce que quand t'es au sommet, en fait, il faut redescendre aussi. Ouais. Et c'est souvent là où il y a des accidents.
T'as un sentiment d'euphorie complète?
Il y a 2 ans, au Broad Peak, j'ai eu vraiment un sentiment d'euphorie. Franchement, où t'as cette sensation d'aboutissement, d'avoir fait quelque chose de grand. Et c'est rare, c'est très rare. C'est exceptionnel.
Benjamin Védrine.
C'est dingue. Parce que j'ai rencontré les mêmes trucs quand tu rentres la descente, quand tu rentres à la maison, tu vois.
À 6h
du matin, tu vois. Je ne savais pas que j'étais aussi un alpiniste de haut vol. Je ne le savais pas.
Chérie, j'ai croisé un léopard de nuit.
Merci beaucoup, monsieur Védrine.